Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 20h.
Adrien Delgrange.
19h en temps universel, au sommaire de cette édition internationale, condamnation historique de Donald Trump, mais il est dispensé de peine avant son entrée à la Maison Blanche dans 10 jours. Aux États-Unis, l'autre actualité du moment, ce sont ces incendies qui ravagent Los Angeles, au moins 10 morts, les feux sont toujours hors de contrôle. Dans ce journal aussi, Vladimir Poutine félicite Nicolas Maduro pour l'investiture de son troisième mandat à la tête du Venezuela. Et puis en France, après cet entretien avec le ministre de l'économie, la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, juge que la position du gouvernement est encore nébuleuse sur l'avenir de la réforme des retraites en France. Mais pour commencer ce journal, allons en Syrie avec cette exécution en public d'un maire en banlieue de Damas. L'homme était accusé d'être lié au pouvoir déchu de Bachar el-Assad par des hommes armés liés aux nouvelles autorités. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui rapporte l'information, la mort de Mazen Knene a provoqué des scènes de liesse. Correspondance à Blajounaïdi.
Une vidéo authentifiée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme montre le maire de Doumar, dans la banlieue de Damas, bâillonné, le sang coulant de sa tête, sous l'effet d'une balle en plein front. On y voit aussi une foule, dont des enfants, le frappant alors qu'il est inanimé et ensanglanté. Le maire était accusé, selon l'OSDH, d'avoir livré des opposants aux forces de sécurité de Bachar el-Assad en rédigeant des rapports mensongers, entraînant nombre d'entre eux dans les sinistres prisons du régime. Il était aussi accusé de racket contre la population. Cette exécution serait le fait de membres de Hayat Tahrir al-Sham, le groupe de l'actuel leader de facto du pays, Ahmed el-Sharaa. Pas de réaction ce vendredi soir des autorités, pour qui c'est un nouveau test de leur engagement à instaurer un état de droit en Syrie. Le 10 décembre, une vidéo montrait déjà l'exécution sommaire par des membres de HTC de trois hommes soupçonnés d'avoir servi dans les rangs des milices de l'ancien régime. Il y a quelques jours, une autre captation avait créé l'émoi. L'actuel ministre de la Justice, alors juge islamique à Idlib, y apparaissait présidant à l'exécution d'une femme en place publique. Blajounaïdi, Damas, RFI.
Nicolas Maduro a prêté serment cet après-midi pour un troisième mandat de 6 ans à la tête du Venezuela. Je le jure, ce nouveau mandat présidentiel sera celui de la paix, a-t-il lancé devant le président de l'Assemblée nationale qui a ensuite déclaré « Vous êtes investi comme président, c'est un coup d'État », répond l'opposition vénézuélienne. Le président russe Vladimir Poutine a félicité d'ores et déjà son homologue. Vladimir Poutine qui pourrait bientôt s'entretenir avec Donald Trump. À 10 jours de son investiture à la tête des États-Unis, se dessine une reprise des contacts entre les deux hommes. Rien de concret à l'agenda, mais un échange d'amabilité reçu avec ouverture mais prudence par le Kremlin qui se laisse courtiser. RFI Moscou, Anissa El-Jabri.
Terminer les rappels que Vladimir Poutine est sous mandat de la Cour pénale internationale. Terminer aussi les formules de Joe Biden à l'adresse du Kremlin comme celle où il qualifiait le chef de l'État russe de, je cite, « boucher », pas encore formellement président. Donald Trump, mais aussi son entourage, multiplie les gestes et déclarations d'intention d'échange avec Moscou. Le Kremlin, lui, tantôt se montre prudent. Le premier mandat de Trump a déçu en Russie. Tantôt se laisse courtisé. Vladimir Poutine est ouvert au contact avec Donald Trump sans condition préalable, annonce ce vendredi du porte-parole du Kremlin. Ce qui est nécessaire, a ajouté Dimitri Peskov, je cite encore, c'est un désir mutuel et une volonté politique de résoudre les problèmes par le dialogue. Toujours selon le Kremlin, il n'y a à ce stade aucun plan concret en vue d'un entretien entre les deux hommes. Donald Trump, lui, en a déjà rabattu sur ses ambitions. Lui qui proclamait pouvoir résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures, a désormais placé son horizon temporel à 6 mois. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Quant au ministère ukrainien des Affaires étrangères, il a de son côté dit ne rien voir de nouveau dans les propos de M. Trump sur une éventuelle rencontre avec M. Poutine. Nous tous en Ukraine voulons mettre fin à la guerre de manière équitable pour l'Ukraine et nous voyons que le président Trump est également déterminé à mettre fin à la guerre, a commenté le porte-parole de ce ministère. Aux États-Unis, un juge new-yorkais a prononcé aujourd'hui une dispense de peine pour Donald Trump dans l'affaire des paiements cachés à une star de film X, entérinant ainsi une condamnation pénale historique pour un président élu des États-Unis. Donald Trump a comparu par vidéo lors de cette audience à la Cour pénale de Manhattan, dénonçant une honte pour le système. Avec cette sentence symbolique, il va entrer le 20 janvier prochain à 78 ans à la Maison Blanche avec l'étiquette d'un repris de justice. Au moins 10 personnes sont mortes dans ces féroces incendies qui sévissent à Los Angeles et aux alentours. Environ 1500 bâtiments ont été détruits. Plus de 100 000 habitants de la mégalopole américaine ont été forcés de fuir. Les autorités redoutent de découvrir de nouveaux morts. Les pompiers mobilisés en nombre jusqu'à 8 000 doivent faire face à des vents violents. Ils sont aussi confrontés à une pénurie d'eau. 3 réservoirs alimentant des bouches d'incendie ont été vidés par le combat contre les flammes dans le quartier de Pacific Palisades. Pour David Blanchon, professeur à l'Université Paris-Nanterre et spécialisé des questions de gestion de l'eau, la ville est confrontée à 2 types de problématiques.
Le risque incendie est connu depuis très longtemps et il est récurrent. Il y a des réservoirs placés un peu en hauteur qui permettent de donner de l'eau aux pompiers quand ils en ont besoin. Et évidemment, quand il y a des feux exceptionnels, les pompiers utilisent ces réservoirs et ils ne peuvent plus aller accéder pour les remplir à nouveau. Et donc, quand les réservoirs sont vides, les bornes incendie sont vides et c'est ce qui se passe actuellement. Mais c'est plutôt une question de logistique plutôt que de pénurie générale dans la région. Et c'est un peu construit comme une utopie parce qu'ils construisent un peu en bois d'abord et en milieu de forêt parce que ça rend le cadre de vie extrêmement plaisant, etc. C'est pas du tout adapté à la façon de construire Los Angeles, les maisons qu'on voit là à Hollywood, les palmiers, même c'est pas du tout une espèce locale, et c'est construit comme si on était en Floride ou dans le nord des États-Unis. Et on ne s'est pas du tout adapté au climat méditerranéen qui est celui de la ville de Los Angeles. Mais le marché fait que, effectivement, on prend ce risque avec une espèce d'utopie pas du tout adaptée au climat local.
Des propos recueillis par Anne Verdaguer. C'est un coup dur pour la finance verte. Le premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, annonce son départ d'une alliance de grands groupes engagés contre le changement climatique. Les explications de Nicolas Feldman.
Dans son communiqué, l'Alliance, qui revendique un peu plus de 300 membres, se dit déçue du retrait d'un investisseur tout en respectant les décisions individuelles des signataires. BlackRock n'a pas réagi à cette annonce, mais pour les médias américains, ce sont bien les procès lancés contre ces groupes engagés pour le climat qui auraient motivé son départ. Depuis novembre, des actions en justice se multiplient en effet dans une dizaine d'États conservateurs américains. Ils estiment que la finance verte entrave le développement des énergies fossiles et entraîne donc mécaniquement des hausse de prix. En moins de 2 mois, l'Alliance a ainsi enregistré le départ de 7 de ses membres. Et le mouvement est bien plus large puisqu'une autre alliance de banques, cette fois-ci, note aussi sa série de défections. 6 grandes banques américaines, dont Goldman Sachs ou Morgan Stanley, se sont retirées d'un programme mondial pour financer la transition énergétique.
Nicolas Feldman, la Terre suffoque. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée, avec une hausse moyenne d'1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, même si cela ne signe pas l'arrêt de mort de l'accord de Paris sur le climat, les températures caniculaires de l'année dernière exigent une action climatique novatrice pour 2025, exhorte le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'actualité en France, fin de semaine de consultation à Bercy entre le ministre de l'économie, Éric Lombard, et les forces politiques. C'était au tour du Rassemblement national d'être reçu, mais aussi de Sophie Binet, la numéro 1 du syndicat la CGT. Cette semaine, les discussions ont beaucoup tourné autour de la controversée réforme des retraites. La gauche et les syndicats réclament sa suspension, et pour Sophie Binet, en sortie de rendez-vous, le compte n'y est toujours pas.
Pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir un chemin vers l'abrogation et donc de bloquer immédiatement l'application de la réforme des retraites et ensuite de mettre en place un chemin permettant d'aboutir à l'abrogation de cette réforme. À ce stade, le compte n'y est pas parce que les choses sont beaucoup trop nébuleuses. Donc il faut poser les choses très clairement et nous dire qu'on demande aux syndicats et aux patronats de trouver les moyens pour financer l'abrogation de la réforme des retraites avec une conférence de financement pour financer l'abrogation de la réforme des retraites. Voilà ce que nous demandons.
Sophie Binet, numéro 1 de la CGT en France, propos recueillis par Victorien Villaume. Ainsi se referme ce journal international, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Je vous laisse avec Caroline de Camaret, Ici l'Europe sur la Radio Mondiale.